On parlait de Noël, qui est un récit évangélique qui nous amène dans des contradictions. Il y a d'un côté ce que nous aimons et ce qui nous attire, c'est-à-dire la douceur de Noël, la douceur de cette fête, de cette présence de cet enfant qui vient de naître, cette tendresse d'une naissance, et puis des réalités qui sont complètement à l'opposé de tout cela, et qui sont d'un autre registre, des réalités qu'on voudrait gommer, qu'on voudrait enlever, oublier, et qui sont tout le contraire de l'esprit de la fête de Noël. Est-ce que notre monde n'est pas finalement comme ça? Ces réalités sont en contradiction flagrante, et comme si c'était encore plus fort dans ces temps de fin d'année où vous avez en même temps cette dureté, cette violence. On connaît le nombre de réfugiés en 2015, on connaît les foyers de conflit, on connaît les guerres, on connaît les agressivités, on connaît tout cela. Eh bien, les réalités du premier Noël étaient également cette opposition entre la douceur d'une naissance et qui suscite la tendresse, qui suscite l'amour et qui suscite l'admiration et le silence et le regard posé sur ce miracle de la vie. Et ensuite, nous avons ce danger, cette menace, cette pauvreté de Joseph et de Marie, cette barbarie, cette furie de Hérode, cet exil de la famille de Jésus. Cette contradiction, je vais en parler ce matin. D'abord, le voyage de Joseph et de Marie de Nazareth à Bethléem, rien que ça, c'est déjà quelque chose. C'était environ 150 kilomètres à faire, et puis il faut le faire à pied. Aujourd'hui, c'est peut-être 2-3 heures de voiture, 2 heures, je ne sais pas. Et à l'époque, c'était 5 jours, à peu près. Et puis, on n'allait pas de gaieté de cœur à Bethléem pour juste faire un voyage de fin d'année. C'était un voyage obligatoire, imposé par les Romains, qui voulaient que tout le monde passe à la caisse. Ils savaient qu'on allait, à cause de ce voyage, les plumer un peu plus. C'était le recensement pour les impôts. Et puis, toutes les auberges sont pleines. Il n'y a pas de place. C'est on joue des coudes pour avoir quelque part un espace pour loger. Ça, c'est des côtés déjà qui marquent la dureté de ce premier Noël. On raconte que dans une petite pièce de Noël, dans une salle, les enfants jouaient la nativité. Et puis, il y avait un petit garçon qui devait jouer l'aubergiste. Et il était donc à sa place. Et quand la lumière, le spot était sur lui, quand Joseph et Marie arrivent devant sa porte, qui lui était donc dirigée et tenue par l'aubergiste, le petit garçon a vu la foule devant lui. Et il était comme paralysé, comme tétanisé. Il ne pouvait plus se souvenir de ce qu'il devait dire. Et puis, il y a ce silence. Et puis, on devait pratiquement parler à sa place. Mais à un moment donné, il a quand même dit quelque chose. Il a dit, « Je devais vous dire qu'il n'y a pas de place, mais tant pis, rentrez quand même. » La compassion avait pris le dessus sur son texte. C'est difficile pour un enfant de jouer la dureté, hein, c'est difficile. Mais le Fils de Dieu est entré dans ce monde, dans un monde où il n'y avait pas de place pour lui, où les bras ne se sont pas ouverts, alors que lui est le cadeau le plus précieux, le plus extraordinaire pour le monde entier. Ensuite va venir la fuite en pleine nuit, à cause de la furie et les menaces de Hérode, en direction de l'Égypte. Nous connaissons, et je me demande comment Joseph et Marie ont vécu avec ça. Savoir qu'on a massacré les nouveau-nés de Bethléem parce qu'on cherchait l'enfant Jésus, qui a été protégé, qui a été emmené en sécurité en Égypte. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu avec ça plus tard? Je me le demande. Je me demande ce qui pesait sur leur cœur, comment ils ont géré tout cela. C'est dans ce contexte que va naître Jésus. Ceci dit, j'aimerais maintenant entrer dans un texte de la Nativité et je vous invite à ouvrir avec moi dans Luc chapitre 1 et nous allons lire quelques versets. Et nous allons apprendre ce matin d'un personnage dont on ne parle pas très souvent mais dont il est bon de parler à Noël en tout cas. Et j'aimerais faire ressortir par l'exemple de cette personne des choses qui vont nous être utiles pour notre vie aujourd'hui. Pas simplement faire un exposé biblique, mais vous amener, j'espère, le pain de vie qui va nous aider à avancer. Nous lisons depuis le verset 26, Luc chapitre 1, 26. Au sixième mois, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen. Voici le texte que nous voulons parcourir un petit peu ensemble et on ira un peu plus loin aussi tout à l'heure. Regardez tout d'abord quelques petits détails que je trouve très pertinents. Au verset 26 et 27, nous trouvons sept noms propres qui sont comme une entrée en matière extrêmement magistrale, puissante, claire, qui nous rappelle que le ciel et la terre vont bientôt s'unir. Regardez, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, envoyé chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Cette vierge était Marie. Sept noms propres, comme ça, posés les uns à côté des autres. Quelle entrée en matière magistrale, précise et majestueuse, n'est-ce pas? Une entrée en matière qui montre que le Seigneur déploie sa banderole pour préciser le contexte parce qu'il veut honorer son Fils. Une accumulation de noms pour parler du Fils de Dieu qui vient. Et puis le nom de Jésus est prononcé. Le nom de Jésus arrive. Verset 31. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David. Il règnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Le titre et le ministère de Jésus, l'enfant qui va naître, est précisé avec force dans ce texte d'emblée. Les titres donnés à l'enfant, Jésus, Fils du Très-Haut, Dieu Sauveur, Roi, avez-vous remarqué qu'il est à la fois fils de David et seigneur de David? Il est les deux à la fois. Il est fils de David et seigneur de David. Il est Dieu et homme à la fois. Il est dans la lignée royale et cependant il est au-dessus de la lignée royale. Il est le descendant et il en est le seigneur. Il en est le maître. C'est majestueux de trouver ces choses avec précision dans ces quelques versets. Et puis, il nous est dit à trois reprises qu'il règnera, il règnera. Il nous est bien dit qu'il règnera sur la maison de David, sur la maison de Jacob, ce sera le trône de David, et son règne n'aura pas de fin, son règne sera un règne éternel. C'est un règne terrestre. C'est un règne terrestre qui déclare une position, un établissement, une autorité. Et en même temps, nous prions que ton règne vienne, mais Dieu d'emblée dit par l'ange à Marie qu'il règnera, que le règne sera contesté, d'abord par Hérode, mais il sera contesté sans arrêt. On conteste l'autorité. Avez-vous remarqué cela? On conteste l'autorité. On conteste l'établissement du règne du Christ. Écoutez cela, Actes 4, 26, les rois de la terre, c'était juste quelques disciples qui priaient. Et dans la révélation du Saint-Esprit qui va leur dire, les rois de la terre se liguent contre celui qui veut régner, ce bébé qui a grandi, fils de Dieu, qui était de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'était ça son ministère. Et pourtant son règne est contesté par les rois de la terre. C'est qui ces rois de la terre? Ce sont les puissances, les autorités, les dominations dans les lieux ténébreux. qui partout manipulent des gens, des pays, des autorités terrestres pour tenir les gens éloignés de ce règne qui vient, qui sera éternel. Et le diable sait que son règne est compté, les jours de son règne sont comptés. Les jours de son règne sont comptés. Et il va augmenter encore en fureur, nous allons voir cela. Il va augmenter sa puissance et sa fureur encore pour contester le règne éternel qui inévitablement viendra, sera établi et nul ne pourra y faire quoi que ce soit. Son règne est un règne sur la maison de David, sur la maison de Jacob, sur la terre entière et son règne n'aura pas de fin, disait l'ange. Et nous voulons le confirmer ce matin. Le psaume 2 encore dit ceci, pareil, pourquoi les rois de la terre? Ça a été une prophétie donnée en Israël, le petit pays. Comment pouvait-il parler des rois de la terre? Et pourtant, le prophète va dire dans cette vision prophétique, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. C'est comme ça que Dieu voit les contestations du règne de Christ. Il se moque d'eux, mais il donne encore un temps de grâce. Mais son jugement vient, c'est sûr. Et il va dire, il leur parlera dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur, verset 5 du psaume 2 toujours. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Mes amis, est-ce que nous confirmons ce matin que c'est lui, le Très-Haut, qui a oint le petit enfant dans la crèche en disant déjà que cet enfant régnera sur la maison de David, mais aussi sur la terre entière? Et qu'on a beau s'agiter et se liguer contre, rien n'y fera, il régnera. Mais les chrétiens, ceux qui sont habités par l'Esprit de Jésus, disent, Seigneur, que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus, viens régner. Nous, on ne veut pas contester ton règne, on soupire après ton règne. Établis ton règne, Seigneur. Reviens, Seigneur, reviens. N'y a-t-il pas assez de souffrance aujourd'hui ? Pour qu'on crie, tous, viens Seigneur, il faut qu'il règne, nous dit encore la parole, il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc l'ange va dire directement que l'enfant c'est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, et qu'il règnera. Et Marie a besoin d'entendre cela, tout au début de sa vocation, de son élection et de son appel. Tout au début de notre vie chrétienne, mes bien-aimés, nous avons besoin d'intégrer ce message. Ton règne est un règne éternel, ton règne vient et il subsistera toujours. Et nous serons impressionnés par les circonstances et les mauvaises nouvelles qui veulent nous déstabiliser. Mes amis, ne nous laissons pas se déstabiliser. Marie a reçu tout au début un message qu'elle avait besoin d'entendre. Ton règne sera un règne éternel. Bientôt, ce sera le millénium. Bientôt la terre va se reposer quand le Christ va régner. Bientôt ce ne sera plus les problèmes du réchauffement climatique et tout cela. Il y aura des solutions et pas des discussions seulement. Il y aura des solutions qui vont arriver parce que le règne de paix va venir et le règne de Christ va mettre les choses en place et il va réussir dans son objectif. Je voudrais maintenant dire un mot sur Marie, sa condition d'humilité. Car et j'aimerais que vous puissiez bien retenir, tu mets la diapo suivante, cette phrase, la plus haute élection demande la plus grande humilité. La plus haute élection demande la plus grande humilité. Dieu nous a élus, et cela exige de nous de l'humilité, et non pas des prétentions de l'orgueil, ou de se croire supérieur, ou de se croire quelqu'un. Marie, et j'ai lu dans un commentaire que je n'avais jamais remarqué que probablement Marie était en fait une orpheline et qu'elle se mariait à Joseph, son plus proche parent, comme la loi de Moïse l'exigeait. Cela n'est pas clairement dit, mais cela peut être déduit des textes de la Nativité que Marie, lorsqu'elle a reçu la visitation de l'ange, n'est pas allée voir son père, mais allée voir Joseph. Elle ne s'est pas référée à l'autorité proche familiale parce que probablement qu'elle n'était pas là. Mais elle est allée trouver Joseph. Puis on ne parle pas de la maison de Marie. L'ange ne vient pas. Il vient vers Marie, qui était peut-être orpheline. Donc elle va se marier à Joseph. Et nous sommes 10 siècles après David. 10 siècles après David. 1000 ans. Bien loin se trouve la royauté, bien, bien loin, avec ses fastes et ses richesses. Tout ça, c'est du passé. Mais la famille de David n'est pas éteinte. Alléluia. Les richesses sont parties. Le temple a été dépouillé par les Babyloniens. Le retour des Juifs est bien, bien modeste et bien humble. Il fallait que Hérode remonte à la noblesse du temple, la beauté du temple, pour en faire une merveille dans la région. Mais le peuple d'Israël était tellement humble. Or, il nous est dit, autant dans la généalogie de Matthieu que de Luc, que Marie et Joseph descendaient tous deux de David. Lignée royale, tous les deux. Sans faste, sans richesse, ils étaient pauvres. Mais de descendance royale. Alléluia. Quelle que soit votre condition, humble, pauvre, avec des moyens ou sans moyens, vous êtes de descendance royale, car le Seigneur vous a élu pour être fils et fille du Très-Haut, de l'Éternel. Nous avons la promesse d'Abraham. En recevant Christ, nous avons un statut royal. Et ce statut, c'est Marie qui l'avait. Et cette humilité transparaît dans tous les textes, c'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi il est absolument faux de donner à Marie plus de place que cela. Elle est un exemple vraiment impressionnant de foi, d'humilité et d'autres qualités encore. Mais quant à cela, de l'amener vers une adoration de Marie, cela devient directement anti-scripturaire. Il n'y a pas d'adoration à Marie à avoir. Cela est vraiment contraire au texte, car, comme je l'ai dit, les généalogies n'aboutissent pas. Vous regardez les généalogies de Matthieu et de Luc, Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 4. Les généalogies n'aboutissent pas à Marie, mais à Joseph. Or, Joseph n'est que le père adoptif de Jésus. Ils n'aboutissent pas à Marie. Elle est de condition modeste, je l'ai déjà dit. Bien que de souche royale, bien que la royauté monte à 1000 ans maintenant, ils sont pauvres parce qu'à la présentation de Jésus, ils vont amener seulement 2 tourterelles, c'est qu'ils ont peu de moyens pour offrir quelque chose. Dans Matthieu, on ne parle pas du tout de Marie. Le Seigneur parle à Joseph pour lui indiquer ce qu'il faut faire. Et ensuite, dans la suite des textes, regardez bien, dans Matthieu, je ne vais pas le lire, regardez chez vous, dans Matthieu, au chapitre 1, et la suite du texte de la Nativité, lorsque Joseph va fuir, il va dire, « Tu prendras le petit enfant et sa mère. » 5 fois, c'est marqué, « Le petit enfant et sa mère. » Ce n'est pas marqué « sa mère et le petit enfant ». C'est marqué « le petit enfant et sa mère » après. L'attention est portée nulle part sur Marie. Et quand les gens vont dire « Jésus, heureux le sein qui t'a porté », Jésus va dire quoi ? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il n'élève pas Marie, sa propre mère. L'humilité transparaît, l'humilité incroyable de Marie qui nous inspire ce matin. Et je voudrais que vous la communiquiez, cette humilité, que vous puissiez l'intégrer dans votre vie. En ayant une élection si grande et si extraordinaire et si particulière, elle est humble. Et dans son Magnificat, dans son chant d'adoration, eh bien, le Magnificat est tellement fort, vous lirez ça au chapitre 1, toujours de Luc. Elle va dire, « Seigneur, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Toutes les générations me diront bienheureuse. » Et puis après, elle disparaît littéralement parce qu'elle voit que le fils qu'elle porte, ce n'est pas son fils, mais c'est le fils pour le monde entier. C'est votre fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est un enfant pour nous, c'est un fils pour toi et pour moi. Ce n'est pas le fils de Marie avant tout, non. Un enfant nous est donné, à nous. Elle va célébrer la gloire. Elle ne porte pas l'enfant pour elle-même, mais pour le monde. Et elle va célébrer la grâce de Dieu. Elle va célébrer la grâce de Dieu. Si nous sommes remplis de la grâce de Dieu, nous n'avons pas de difficulté de rendre gloire à Dieu et d'être humbles. Et la grâce va couler à flot par la vie de Marie. Pourquoi ? Et j'aimerais souligner ça. C'est parce que elle se maintient à sa bonne place. Si vous vous maintenez à votre place, là où Dieu vous a placé, la grâce de Dieu va couler au travers de vous et vous serez en bénédiction pour un grand nombre. Ne recherchez pas une place, ne vous agrippez pas à un statut, un titre ou quoi que ce soit. Soyez à votre place, servez le Seigneur et la grâce va couler. Alléluia. Marie était à sa place. Elle n'avait pas besoin d'exiger, de dire, mais quand même, je suis pas n'importe qui, je suis Marie. Est-ce que quelqu'un m'a vu? Pourquoi personne ne me remarque? Vous verrez ça nulle part avec Marie. Elle rend gloire à Dieu, elle reste à sa place. Car elle sait qu'en définitive, le plus beau cadeau, c'est elle qui le porte. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour une place, mes amis. Même si dans le monde, ça se passe un peu comme ça. Il faut se battre pour être reconnu. Mais dans le royaume de Dieu, non. Parce que Dieu, le Père, vous voit, il vous donne votre place, il vous a fait une place, il vous a établi, il vous a élu, il vous a choisi pour que vous soyez celui et celle qui va porter le Fils de Dieu à son tour, plus loin vers quelqu'un d'autre. Vous avez la richesse la plus grande. De quoi vous plaignez-vous donc? Non, nous sommes à notre place dans l'humilité et la force que va transmettre cette humilité, je vais en parler. Donc c'est véritablement la foi de Marie dont je vais parler maintenant qui sort dans ce texte. À l'annonciation de l'ange correspond la foi de son cœur, son attente est intacte. Nous nous souvenons que à la naissance de Jésus, il n'y avait plus de prophète. Pendant 400 ans, il n'y avait pas eu de prophétie. Le dernier prophète, c'était Agé et Zacharie, Malachie aussi. 400 ans environ, sans prophétie. Mais les Juifs pieux, comme Siméon, comme Anne, comme Marie, Joseph, ils avaient dans leur cœur les vieilles prophéties. Ils avaient dans leur cœur le vieux livre, la loi de Moïse et les prophètes qui avaient annoncé quelque chose, qui avaient annoncé déjà par Moïse, et surtout par les textes d'Ésaïe et de Michée aussi, que le Messie viendra. Et cette attente était vivante dans le cœur de Marie. Il y avait une attente. Lorsque Siméon et Anne sont dans le temple, eh bien, il nous est dit qu'ils attendaient la consolation d'Israël. Ils attendaient le rétablissement de Jérusalem. Ils attendaient quelque chose de la part de Dieu. Il y avait une soif. Seigneur, ce n'est pas possible que ça reste comme ça, Israël. Seigneur, ce n'est pas possible qu'on n'en ait que là. Après tout ce qu'on a comme richesse et comme héritage spirituel, on en est là aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut que tu envoies un réveil. C'était ça ce qui se passait dans le cœur de Marie. Et quand elle va entendre l'annonciation, donc le message de l'ange, eh bien ça va vibrer en elle, frères et sœurs. Lorsque vous attendez un réveil, lorsque vous attendez une action du Saint-Esprit, quand résonne une prophétie dans l'Église, lorsque vous lisez la parole, ça fait écho, n'est-ce pas? Ça résonne en vous, ça dit, mais c'est ça, ça commence à bouillir en vous, ça commence à résonner en vous, mais c'est ça que je veux. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. C'était ça ce que le prophète disait. Il y avait donc une résonance, ce n'était pas un message bizarre qui arrivait. « Seigneur, c'est quoi? Je ne comprends rien, cette prophétie de l'ange, je ne comprends rien. » Non, ça résonnait, ça confirmait dans son cœur un tas de choses qu'elle connaissait déjà par la parole de Dieu. Si vous aimez les Écritures, mes bien-aimés, si vous aimez les Écritures, lorsque viendra une prophétie, vous pourrez distinguer, vous discernerez vous-même ce qui est vrai, ce qui est peut-être pas tout à fait. Mais je veux proclamer ce matin que dans cette Église, sont données des paroles prophétiques qui font résonner dans les cœurs de cette salle des personnes qui vont recevoir cette parole, qui vont la recevoir comme Marie a reçu l'Annonciation. La même chose. Vous allez recevoir cette parole de la même manière. Vous allez avoir un écho en vous et Dieu a entendu votre soupir. Il répond par une prophétie qui colle comme un gant sur une main. Et vous allez dire oui à cela. Vous ne pourrez pas dire autrement parce que Marie a dit oui. Un projet fou, un projet complètement incroyable. Elle était littéralement poussée par le Saint-Esprit de dire « qu'il me soit fait selon ta volonté ». Elle a carrément dit oui parce qu'elle était habitée par la foi de Dieu. Pas seulement la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi, c'est une confiance donnée dans une circonstance précise où Dieu vous donne une partie de foi que vous n'aviez pas précédemment et que vous n'avez plus besoin par après. C'est une partie de foi juste pour le projet dans lequel il faut entrer maintenant. Vous recevez la foi de Dieu pour ça. Et Marie a reçu la foi de Dieu, justement, à ce moment-là. Sa réponse va exprimer la foi. Elle est confiante, malgré l'inconnu total. Marie est dans la confiance en la parole donnée qui résonne, mais elle est intriguée. Elle n'est pas incrédule, mais elle est intriguée. Elle n'est pas comme Zacharie, dit, mais à quoi est-ce que je vais reconnaître que c'est bien toi qui me parles? Il prend l'ange, Zacharie prend l'ange de haut, et il dit quand même, ouais, c'est ton niveau de prophétie, là, c'est pas tout à fait ça. Hein. Ou bien comme Sarah, qui entend une parole incroyable, Sarah, la femme d'Abraham, et qui va rire. Et Dieu dit, mais tu as ri là-bas, dans le coin de ta tente. Personne ne t'a vu, mais moi je t'ai vu. Et tu verras que ça va arriver. Ce n'est pas ce genre d'incrédulité qui était en Marie. Marie n'avait pas d'incrédulité, elle avait une intrigue. Elle se disait, mais comment? Et la réponse de l'ange, frères et sœurs, c'est notre réponse ce matin. Là où vous ne comprenez pas, le Seigneur te dit simplement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Laisse faire le Saint-Esprit, fais confiance à l'œuvre du Saint-Esprit. Fais confiance à l'œuvre du Saint-Esprit. Qui est-ce qui aurait été satisfait de cette réponse-là? Est-ce que vous auriez été satisfait de cette réponse-là? Le Saint-Esprit viendra sur toi, point. Rien de plus. Pas d'explication complémentaire. Elle a dit, ok, je fais confiance. Confiance incroyable, c'est ça qui m'inspire ce matin. C'est cette confiance suffisante dans ce que Dieu veut bien nous dire. Souvent, nous voulons tout connaître. Nous voulons connaître tout dans le détail, comment ça se passera. Ça, ce n'est plus la confiance. Si Dieu dit quelque chose et qu'il s'en tient là, c'est qu'il faut avoir confiance juste dans ce qu'il dit et aller avec ce que vous avez reçu. Amen. Est-ce que nous voulons aller dans cette période de fin d'année avec ce que nous avons déjà reçu? Sans s'inquiéter, sans questionner le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu ne me dis pas, etc. Pourquoi je ne reçois pas de réponse? Allez avec la force que vous avez. Allez avec la parole que vous avez. Allez avec le secours du Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il sera avec vous. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc Marie va s'offrir à Dieu dans ce projet. Et cette foi, mes amis, cette foi de Dieu, je parle de la foi de Dieu encore une fois, cette foi de Dieu qui habite le cœur de Marie, cette foi va la porter dans toutes les contradictions qui vont arriver bientôt. Quand Marie va être dans l'incompréhension de l'attitude de son fils, elle ne comprendra pas. La famille va dire que Jésus est fou et elle devra marcher par la foi en disant « Mais non, ce que l'ange a dit et ce que Siméon a dit, je suis bien averti qu'il y aura des choses difficiles à vivre. » Cette foi va la porter contre vents et marées jusqu'au pied de la croix où elle sera seule en verrant son propre fils bien-aimé être crucifié, souffrir d'une manière horrible. Cette foi de Dieu qu'elle recevra à l'Annonciation par son oui, va la porter dans les hauts et les bas de sa vie pendant 33 ans et va la porter jusque dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. La foi que vous avez aujourd'hui dans la parole de Dieu et dans le Seigneur et ce qu'il est en train de faire dans nos vies, elle vous portera aussi de la même manière. Maintenant, le Seigneur sait quand même qu'il faut confirmer sa parole. Et Dieu sait que Marie a besoin de quelque chose de plus, d'une confirmation et d'un encouragement. Nous lisons verset 39. « Ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit en son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. » Ce n'est pas dit que Marie fut remplie du Saint-Esprit. C'est dit qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, révélation, vienne à moi ? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru. » Par révélation, Dieu encourage la foi de Marie. La foi de Marie, c'est ça le thème. « Heureuse celle qui a cru. » À l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie a besoin d'un moment de solitude. Tout ça, c'est très fort, tout ça, c'est très grand, tout ça la dépasse. Il faut qu'elle prenne un peu de temps dans le silence, dans les montagnes de Juda. Il faut parler avec quelqu'un. Mon ami, si tu as une parole, si tu as quelque chose qui te préoccupe, va parler avec quelqu'un, mais pas avec n'importe qui. N'ouvre pas ton cœur au premier venu. Mais va vers quelqu'un où tu sens que la foi aura une résonance auprès de quelqu'un qui peut-être ne te comprendra pas, mais où tu te sentiras accueilli. Où tu te sentiras accueilli. Dieu sait que Marie a besoin de quelque chose de plus. Dans les grandes décisions de la vie, écoutez bien, dans les grandes décisions de la vie, vous avez besoin et vous avez le droit de demander une confirmation. Amen. Demandez une confirmation. Dans les grandes décisions de la vie, ne foncez pas parce que vous sentez ceci ou cela. Demandez une confirmation claire. Et le Seigneur a voulu donner cela exactement à Marie. Et lorsqu'elle rencontre Élisabeth, est-ce que vous remarquez que le courant passe tout de suite? Il n'y a pas eu un échange très très grand au niveau des mots, mais le courant passe. Le courant passe. C'est une perception spirituelle. Elles sont sur la même longueur d'onde immédiatement. Les deux vivent quelque chose de surnaturel. Toutes deux se comprennent sans beaucoup de mots. Toutes deux reçoivent la clarté du plan de Dieu, de ce qui se passe. Toutes deux vont dire des mots inspirés, vont prophétiser, vont adorer. Frères et sœurs, c'est ça que je souhaite pour chaque couple chrétien. Être sur la même longueur d'onde, sans beaucoup d'études, etc. Une connexion spirituelle se fait. Le couple doit être connecté esprit, âme et corps. Le couple chrétien est connecté esprit, âme et corps. Oui. Donc, intégrez cette parole, elle est valable. Et ici, on voit une connexion spirituelle où Marie va trouver vraiment cette personne qui comprend et qui va confirmer quelque chose, qui va appuyer quelque chose, qui va être de la part de Dieu, vraiment cette personne qui va l'encourager. Oh, je souhaite que dans tous les couples chrétiens, ce soit comme ça. Et qu'entre amis chrétiens aussi, puissiez trouver la bonne personne qui vraiment puisse vous encourager. Élisabeth va confirmer la foi de Marie. On pourrait encore dire d'autres choses là-dessus. Et parce que, eh bien, quelque chose de surnaturel a été vécu chez Élisabeth. Le surnaturel d'Élisabeth va encourager le surnaturel et la foi de Marie. Je me souviens que lorsqu'il y a une action surnaturelle dans une famille, eh bien, les autres membres de la famille sont encouragés. J'ai déjà souvent raconté l'histoire, je vais vraiment l'abréger pour ne pas la raconter en détail, mais nous avions vécu un jour quelque chose, vraiment une libération au sein de notre famille avec une de nos filles qui était petite à l'époque. Et Jenny avait raconté cet épisode à l'école du dimanche et ça a encouragé la foi d'un enfant qui est rentré chez lui où sa maman était malade et qui a dit « Maman, maman, Dieu existe et il peut te guérir aussi, je veux que tu remarches comme toutes les mamans. » Et cette foi de l'enfant, encouragée par le surnaturel qu'il avait entendu, il l'a transporté à la maison et la maman a commencé à lâcher ses béquilles l'une après l'autre. Et elle a marché. Ça a été un élément déclencheur parce que la foi se communique, la foi du surnaturel est communiquée pour que l'autre puisse aussi amener le surnaturel et la foi dans le surnaturel à la maison. Frères et sœurs, c'est ça la communication de la foi. C'est même extraordinaire. Et maintenant, ma dernière pensée. Il n'y a pas de foi sans son prix. Lorsque Marie va dire oui à la volonté de Dieu, elle va dire « qu'il me soit fait selon ta volonté », elle va recevoir une grâce spéciale pour son ministère et pour sa situation. Et cette grâce et cette paix vont l'accompagner. Lorsque vous avez un appel, lorsque vous recevez de Dieu un message, lorsque vous sentez qu'il faut faire quelque chose, vous recevez la grâce et la paix pour faire ça. Grâce et paix vous soient données. C'est ce que Paul dit à chaque lettre, parce que vous recevez la grâce pour quelque chose à chaque situation. Et Siméon, duquel on va parler courtement, chapitre 2 de Luc, et au verset 30, Siméon va dire « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce que l'on disait de lui. La douceur de Noël, la beauté, la bénédiction, l'admiration devant des paroles merveilleuses, encourageantes. Waouh ! Son père et sa mère, tous deux, sont émerveillés, encouragés. Et tout à coup, dans le même élan de prophétie, le ton va changer. Siméon les bénit, jusque-là tout va bien. Et puis il se tourne vers Marie. Il se tourne uniquement vers Marie, remarquez bien cela. Parce que c'est Marie qui aura besoin de vivre tout ce qu'il va dire maintenant. Il se tourne vers Marie et dit, cet enfant est là, ça veut dire, il est placé là. Le mot « là » veut dire, il est établi là par Dieu. Il est positionné dans un ministère spécial. Il est juste placé là, déterminé par le plan de Dieu. Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe qui provoquera la contradiction. Pour toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit révélée. Marie avait besoin d'entendre les réalités de Noël, les réalités futures, pour se préparer, parce que Jésus est effectivement un signe qui départage les choses. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ceux qui le rejettent et ceux qui l'accueillent. Pour les uns, il est une odeur de vie qui donne la vie éternelle, et pour les autres, une odeur de mort. Il est là pour sauver, mais il viendra pour juger. La contradiction est annoncée clairement par Siméon devant Marie, parce que Joseph ne sera plus là. Et c'est sur cette base-là, entre autres, ce n'est pas la seule, parce que depuis ce moment-là, on n'entendra plus parler de Joseph. Joseph va très probablement décéder à un moment donné, et c'est Marie seule qui portera la charge de cette prophétie. Elle aura besoin de se souvenir, de ne pas être déstabilisée complètement en voyant comment va tourner le ministère de Jésus, qui finira à la croix par le jugement, qui finira par une crucifixion injuste, par un jugement terrible, mais qui en réalité est le plan de Dieu pour le salut du monde. Elle a besoin d'entendre et de connaître la contradiction. Frères et sœurs, c'est ça que je veux vous amener ce matin. En vous laissant inspirer par la foi, l'humilité, la foi vivante de Marie, nous devons être au clair qu'il y a une contradiction qui va avec l'Évangile, qui est inséparable de l'Évangile. Moi, je voudrais prendre que Jésus bénissait les foules, nourrissait les foules, guérissait les malades, délivrait les opprimés. Il était là pour étendre le royaume de Dieu, mais je voudrais entendre que ça. Je voudrais que ces bénédictions-là. Mais il y a aussi les contestations, les oppositions, les souffrances et les larmes. À l'élection se mélangent amour, joie, force, certitude et douleur et souffrance. À l'honneur et au privilège du service se mélangent les combats, les solitudes, les coups, les larmes et l'ombre de la croix. L'apôtre Paul va dire tout le long que c'est un honneur d'être appelé. Mais il va dire ceci, par exemple, dans 2 Timothée 3, verset 10, « Pour toi, Timothée, qui as suivi de près mon enseignement, mes résolutions, etc., à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, Icône, Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Alléluia. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Il y a un prix à payer pour la foi. Il y a un prix à payer, mes amis. C'est ça aussi, la contradiction de Noël. L'ange leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Aujourd'hui, vous êtes né le Christ qui est le Sauveur, le Seigneur. Et en même temps, une épée te transpercera. Ce n'est pas pour faire mal que Dieu dit ça, mais c'est pour préparer Marie aux réalités que Jésus ne laisse personne indifférent. Jésus ne nous place jamais sur un terrain neutre. Nous sommes sur un terrain où nous sommes pour ou nous sommes contre. Nous sommes avec ou nous ne sommes pas avec. Nous sommes attirés ou nous sommes repoussés. Jésus relève ou il est occasion de chute. Il est soit la pierre d'achoppement ou la pierre angulaire. Soit il vous endurcit et il vous éloigne, ou alors il vous amène à la repentance et à la vie éternelle. Il est comme le feu, soit vous vous réchauffez, soit le feu vous brûle. Il est comme l'oxygène, soit vous l'inspirez et vous vivez, soit vous n'avez plus d'oxygène et vous mourrez. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Ça, c'est l'Évangile, mes amis. On ne peut pas être neutre. Est-ce que ce matin, nous voulons accepter et dire oui comme Marie, en étant inspiré par sa foi vivante, tout en sachant que Dieu nous donnera toujours la grâce, la force qui va avec l'appel et l'élection, afin de tenir lorsque les contradictions vont croiser notre route. On ne les cherche pas, je ne les cherche pas. Les larmes et les coups, je ne les cherche pas. Mais mes amis, je peux vous dire, quand vous êtes appelés, tôt ou tard, vous porterez, et je les porte, les cicatrices sur mon cœur, des coups du diable, de la méchanceté et de toutes sortes. Portez les cicatrices et la guérison, mais les cicatrices seront là. Et que Dieu m'aide à parler, non pas de mes blessures, mais de parler à partir de cicatrices peut-être, pour illustrer que la vie chrétienne, c'est d'un côté la joie, la force, c'est le message le plus extraordinaire, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'exister, c'est mon éternité, c'est mon espérance, mais en même temps, il y a un prix à payer pour notre foi. Amen.